Vous écoutez RTL. RTL.
On refait le match.
Pascal Pro.
Bonsoir à tous. Neymar, Cavani, Bielsa, Zidane, Benzema, etc. Des stars, des personnalités, des égaux au programme d'On refait le match. Des histoires d'hommes, des chicaneries de vestiaire, des colères d'entraîneurs. Et avant de vous présenter la petite bande de ce soir, direction Montpellier avec Dimitri Moulins. Paris est en échec. Bonsoir Dimitri.
Bonsoir. 72 minutes de jeu et Montpellier et Paris en sont toujours à zéro partout. Paris n'arrive pas à trouver la faille.
On revient vous voir dans une seconde. Je vous présente nos invités du jour.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Philippe Sanfourche. RTL, bonsoir.
Bonsoir Pascal.
Florian Gazan est là.
Bonsoir Pascal.
On peut écouter dans les grosses têtes également. François Pinet.
Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Pascal.
Sébastien Tarago de l'équipe.
Bonsoir Pascal.
Nous suivons ensemble ce Paris Saint-Germain en déplacement à Montpellier. Je vais citer un propos hors studio de Sébastien Tarago. Oula. Paris est nul depuis le début de saison, mais Paris gagne tous ses matchs.
C'est vrai, mais j'assume. Oh, j'ai l'habitude d'assumer. D'ailleurs, les supporters du Paris Saint-Germain s'en souviennent souvent. Mais avoir autant de bons joueurs et être aussi mauvais, franchement, c'est une sorte d'exploit.
Je trouve que vous exagérez un peu, d'ailleurs. Il y a eu quand même quelques matchs.
Non, mais on peut poser la question autrement. Combien de bonnes mi-temps abouties du PSG depuis le début de saison?
Dites-le-moi.
Il y a eu un match de Ligue des Champions.
La première mi-temps à Celtic.
Voilà, oui. Le match de Ligue des Champions.
Enfin, la deuxième mi-temps à Guingamp.
Ouais, à Guingamp, c'était correct.
Et puis les 10 dernières minutes contre Toulouse.
Et voilà. Metz.
Non, mais
Metz, il y a l'expulsion. Oui, on se contredit.
Non, mais on a le PSG version championnat qu'on a depuis le début. Voilà, et puis on verra sans doute un PSG différent contre le Bayern Munich.
C'est votre ami Emery que vous soutenez
en permanence.
Pourquoi vous dites ça, qui est incapable de faire jouer?
C'est pas lui qui est en short et qui court sur la pelouse.
Mais c'est lui qui les entraîne, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu.
Non, je pense que vraiment, il y a quelque chose dans la tête, effectivement. Le Paris Saint-Germain se dit, on arrive... Et avant le coup d'envoi, on a déjà gagné la rencontre. Et donc, c'est effectivement un match au petit trot. Et quand on rencontre une équipe comme Montpellier qui met un petit peu de physique, c'est plus compliqué. En général, même s'il joue mal, et Sébastien l'a dit hors antenne, il l'a reprécisé en studio, effectivement, même quand il joue mal, il gagne. Donc, ils ne vont pas changer les choses.
Moi, ce qui m'étonne quand même dans cette
Sébastien
équipe,
Tarago.
Le Paris Saint-Germain est une équipe dominatrice, évidemment, comme... ça devrait être le cas, en tout cas, comme Lyon a pu l'être au début des années 2000. Mais Lyon, au début des années 2000... En Ligue 1, quand ils accéléraient, c'était réglé l'histoire. Et souvent, ils jouaient qu'une mi-temps, mais enfin, ça faisait mal quand ils jouaient une mi-temps.
Dimitri Moulins. D'abord, Dimitri, on va rendre hommage à Montpellier qui a fait une remarquable première mi-temps sur le plan physique. Avant de parler peut-être du match, je voudrais que vous nous parliez de cette pelouse qui est juste indigne. Je sais que c'est la saison des champignons, mais le champignon qui bouffe l'herbe...
Bon, c'est pas des cèpes, là.
Ouais, de Montpellier, c'est juste indigne.
C'est une pelouse dans un état catastrophique. Alors indigne, c'est peut-être un peu fort. Catastrophique en tout cas, avec ce champignon qui revient tous les étés, qui est soigné à chaque fois pour aller, on va dire, mi-octobre, fin octobre. Et ce problème récurrent lié à un mélange chaleur-humidité que l'on a ici spécifiquement à Montpellier, à la Mosson, puisqu'on a la Mosson qui est un fleuve qui passe juste au bord de la pelouse et que l'on a évidemment la chaleur ici régulièrement.
Il fait très chaud d'ailleurs ce soir. Il faisait 28-29 degrés.
Il fait bon.
Il fait bon. Il faisait 28-29 degrés au coup d'envoi.
Mais là, avec 28-29 degrés, c'est plus que bon. J'ai un peu frais quand même.
Il reste combien de temps,
Dimitri? Un quart d'heure.
On a quand même le sentiment, et c'est normal, que le Paris Saint-Germain impose sa force, sinon mentale, au moins physique.
Sur la deuxième période, effectivement, ils sont revenus en se mettant à jouer, ce qui était moins le cas en première période, mais ils avaient été énormément bloqués par Montpellier qui, je pense, a fait la première période qu'il fallait. Montpellier a été beaucoup plus en difficulté en début de deuxième période, mais il y a derrière Benjamin Lecomte qui est en grande forme ce soir, le gardien de Montpellier. En première période, il s'était fait plaisir avec un petit crochet face à Edinson Cavani.
Vous dites en grande forme, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Il n'y a pas beaucoup d'occasions du Paris Saint-Germain.
Les trois ballons qu'il fallait sortir, il les a sortis.
Sur la première période, le PSG n'a pas cadré une seule frappe. Ça n'est pas arrivé, je crois, depuis un an et demi.
C'est pour ça que je vous parlais de la deuxième période où c'était un peu plus incisif du côté parisien.
Et heureusement qu'Mbappé, là.
Sébastien Tarago.
Franchement, Mbappé, il fait le job, à mes yeux. alors que les autres ne le font pas dans l'intensité. Parce qu'encore une fois, le talent est là, évidemment. Ils sont supérieurs à cette équipe, normalement, évidemment. Mais c'est juste une question d'intensité et de volonté. C'est ça qui est un peu ennuyeux.
C'est là qu'on voit l'absence de Neymar. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur lui, même s'il est un peu croqué. Au moins, il accélère. Au moins, lui, il se bouge et il fait des choses. Après, il rate beaucoup par moment. Mais au moins, il est détonateur. Et là, on a l'impression que c'est orphelin de Neymar, qu'ils ne savent pas jouer sans lui. Il a sur le ballon.
Cette question, quand même, est-ce que Unai Emery doit, en championnat, alors que quand même le PSG est largement supérieur aux équipes qu'il rencontre, jouer avec ce milieu à 3, Thiago Motta, Verratti et Rabiot, qui fonctionne
qui est très bas en Ligue des Champions,
et on comprend très bien, ça a très bien marché au Celtic, mais contre Montpellier, comme contre Metz, vous pouvez mettre un autre élément offensif.
Sauf que quand il joue en 4-4-2, on dit que ça fonctionne pas.
Ça joue encore moins bien.
Donc, dimanche dernier contre Lyon, c'était pas très.
Là, c'est quand même encore une fois surtout une question d'intensité et de volonté.
Draxler est sorti, il a été en dessous de tout.
Oui, alors on peut Philippe parler de Draxler, effectivement, il n'est certainement pas dans la meilleure période de sa carrière, mais moi avant ça, j'aimerais parler de Verratti. Quoi.
Parce que
Verratti, ça fait un an qu'on n'a pas vu jouer correctement, quoi. C'est terrifiant.
Mais pourquoi
quel est l'apport? Là, il fait une bonne passe à un moment donné, une passe un peu lobée là, pour Mbappé qui rate un peu son deuxième contrôle, mais à part ça, sur l'ensemble de la partie, je vois rien. De Verratti.
Et là, ce
que lui pas plus que les autres. Hein.
Dimitri.
Oui, on peut parler effectivement des attaquants, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de ballon, quoi.
Là se pose la question quand même du turnover de Emery. À quelques jours d'un match de Ligue des Champions, on aurait aimé voir pourquoi pas Lo Celso qui fait des bonnes rentrées, qui peut dynamiser un peu le jeu, faire un petit peu tourner, mettre un peu de concurrence aussi dans cette équipe du PSG où
oui,
on a
mais
l'impression
Pastore
que les
encore blessé.
C'est vrai qu'il est blessé. Di Maria, Pastore.
Voilà, oui, mais Di Maria est blessé, Pastore. Non,
puis,
ouais,
et puis il y a
blessé,
ce problème de numéro 6 qui n'a pas été recruté au mercato. On est tous en train de se dire qu'il manque un milieu dans cette équipe.
Mais c'est pas le numéro 6.
Et du coup, tu fais jouer
600 millions ce soir, t'es pas capable de tirer une fois cadré.
Non, on parlait du déséquilibre de cet effectif.
Cavani, pénalty, Dimitri.
Tacle sur Cavani, pas de pénalty selon l'arbitre.
Bien arbitré.
On va voir effectivement en ralenti radio ce que cela donne.
Petite semelle quand même.
Mais en tout cas,
Neymar est à l'aéroport pour le tirer.
Clément Turpin ne donne pas de pénalty, c'est une certitude.
Petite semelle, on va évidemment parler. Vous avez entendu la voix de Florian Gazan qui parlait du pénalty de Neymar. Ça va être un de nos thèmes tout à l'heure qui a gagné cette semaine de Cavani, de Neymar, des Brésiliens, d'Emery qui ne tranche aucune décision. On est en train de revoir au ralenti ce qu'on pouvait imaginer comme une faute sur Cavani. Verdict, messieurs.
Bien arbitré, pas de pénalty.
Il faut le dire vite quand même.
C'est limite pour le coup.
Il faut le dire vite, François.
Plus taclés dans la surface doivent laisser Edinson Cavani tout seul face au but. Moi, je veux bien, on fait les règles du football.
Pieds décollés, Cavani. C'est pas évident.
Il va direct sur le ballon quand même.
Ça attaque, il joue la balle.
Dieu sait que je pense que le Paris Saint-Germain est favorisé par arbitrage. Autant là,
regardez
quand même qu'il y a. Bon, il prend le ballon.
Non, c'est très bien taclé. Si les défenseurs peuvent plus tacler dans la surface, on change les règles du PSG.
Franchement, sur l'un des angles, on a l'impression qu'il y a faute et sur le second, non.
Ah, bah encore
il a les deux pieds décollés.
Magnifique la vidéo.
Et ben moi, je me mouille, je dis qu'il y a pénalty.
Il a quand même les deux pieds.
Voilà, je suis désolé. Je dis qu'il y a pénalty sur cette occasion.
Parce que vous êtes un homme de conviction, Pascal Pro.
Vous êtes un insoumis, Pascal.
Je dis, il y a pénalty. Bah,
les deux pieds décollés.
On ne peut plus tacler. Alors, on fait une règle au football. Ne taclons plus.
Bon, on va marquer une page de publicité.
On peut plus tacler dans la surface.
Il n'y a pas une maîtrise totale du geste.
Bon, on va faire une page de publicité.
Je voudrais ça, c'est clair.
Vous allez revenir souvent parce que vous allez faire plaisir à Christian Olivier.
C'est pour ça que je dis ça.
Je vais donner une information. Je vais donner une information d'ordre privé. Il faut avoir joué au football avec François Pinet pour comprendre que sur cette action, il ne juge pas qu'il y a pénalty. Oui. Parce que sur un terrain, c'est un fou.
C'est
à
vrai.
Tout de suite.
Je fais des tacles.
À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Et 18h41 sur RTL, Montpellier 0, Paris Saint-Germain 0, avec Florian Gazan, Philippe Sanfourche, François Pinet et Sébastien Tarrago. La discussion se poursuivait sur y avait-il pénalty ou non sur Cavani. J'ai pas votre avis, Dimitri Moulin, il reste 8 minutes.
Ah non, il n'y a pas pénalty. Très clair, évident.
Vous êtes formidable.
Je fais comme Pascal, mais à l'inverse.
Oui, mais moi, d'abord, c'est au troisième ralenti. Forcément,
ah bah
c'est toujours plus facile au ralenti. Pour moi, il y a pénalty, il y a faute. Les deux pieds décollés, et il peut même lui casser la cheville. Donc,
on l'évoquait aussi à la pause. Le ralenti, ça biaise la perception des choses. Parce que l'intensité du geste, c'est très important pour avoir une analyse précise.
Jugé comme l'arbitre. L'arbitre, il a vu, effectivement, à tacle. Bon, voilà.
Bon, bref.
Il n'y avait pas faute.
Il reste combien de temps, Dimitri ?
6 minutes au temps réglementaire, plus évidemment 3 minutes à peu près de temps additionnel, sans doute.
Alors, je suis un peu ennuyé pour tout vous dire, parce que ce match, évidemment, il est important et on a envie de. Il y a un véritable suspense. Et en même temps, on avait des petits thèmes à parler de ce qui s'est passé cette semaine, et notamment cette affaire de pénalty qui est peut-être révélatrice de ce qui se passe dans le vestiaire. Donc, je vous propose qu'on en parle, et évidemment, Dimitri, si ça chauffe à la Mousson, vous intervenez bien évidemment. Donc la semaine du Paris Saint-Germain, elle a été marquée par les excuses de Neymar, par ce pénalty tiré par Cavani, manqué d'ailleurs, et Neymar voulait le frapper. Qu'est-ce que ça révèle, Philippe Sanfourche, dans le vestiaire ? Ça révèle que, et ça surprend par exemple ceux qui nous écoutent, que l'entraîneur ne dise pas avant un match, c'est toi Cavani qui frappe le pénalty ou c'est toi Neymar qui frappe le pénalty, parce qu'on a découvert qu'il n'y avait pas de consignes.
Le problème, c'est qu'il y en a des consignes, mais je pense que lui-même ne les comprend pas, les consignes qu'il demande. Donc comment voulez-vous qu'elles soient appliquées correctement ?
Attendez,
j'ai réécouté 10 fois, j'ai décortiqué les explications d'Unai Emery, que ce soit avant le match de Lyon, parce qu'il en parle.
Sur Montpellier-Rennes, la sortie de Benjamin Lecomte suite à un corner joué à la Rémoise rapidement par Cavani. Ce ballon centré dans la surface, mais une nouvelle fois, Lecomte bien présent pour aller le chercher.
Dimitri Moulin est à Montpellier, 0-0 entre Paris et Montpellier.
Donc, on ne comprend rien à ce qu'il explique, Unai Emery. Vous réécoutez sa conférence de presse avant le match de Lyon. Il évoque la question. Oui. Il évoque la question. Vous pouvez l'écouter 10 fois. Je vous mets au défi de comprendre ce qu'il veut dire.
Il a pas envie que vous compreniez.
Il explique que Cavani tire le premier.
C'est de la langue de
bois. Que Neymar,
vous savez très bien ce que c'est.
S'il doit en tirer un derrière, ce sera Neymar. Mais on ne sait pas si c'est dans le même match ou si c'est globalement sur l'ensemble des matchs. Je vous mets au défi de comprendre.
Bon, ce qui compte, c'est que les joueurs comprennent là visiblement. Soit ils n'ont pas compris, soit ils ne l'écoutent pas. Donc, on peut être d'accord sur un constat, c'est que ça pose souci. Parce que s'ils ne le comprennent pas, c'est ennuyeux.
C'est ridicule.
Et s'ils ne l'écoutent pas, c'est ennuyeux aussi.
L'image qui est donnée du Paris Saint-Germain, de ce grand club, où tu vois.
Il a failli faire une phrase.
Pardonnez-moi,
c'est pas grave, Pascal. C'est quand même incroyable l'image qu'on donne du Paris Saint-Germain.
Vous avez. Non, mais c'est terminé.
Donc, moi, je crois quand même que c'est révélateur de quelque chose sur effectivement le discours de l'entraîneur. C'est quand même ennuyeux.
Et puis cette image, je le répète, donnée où tu vois Dani Alves piquer le ballon à Cavani pour le donner à Neymar. T'as l'impression sur le coup franc qu'il y a une forme de conspiration contre Cavani et pro-brésilien. C'est étrange, François
Pinet. Mais ce qui est vrai, c'est que moi je trouve que l'un des perdants, en tout cas si la décision est de partager le pénalty, l'un des perdants pourrait être Edinson Cavani. J'espère qu'ils n'ont pas fait la bêtise de dire c'est Neymar qui tirera tous les pénaltys. Visiblement non, sera alterné.
Ça sera Cavani un et Neymar 2.
Parce que Cavani, vous pouvez le perdre sur ce genre de choses. Et Cavani, il a besoin de confiance, c'est le buteur. Il a prouvé qu'il savait tirer les pénaltys. Il faut lui laisser quand même l'occasion de tirer les pénaltys. Après, je comprends quand Neymar arrive, lui il veut être ballon d'or. Il voit qu'à côté ses copains Messi et Ronaldo, ils tirent tous les pénaltys, quasiment tous les pénaltys dans leur club. C'est lui qui veut tirer les pénaltys au PSG.
Ça fait 6 ans. Le Qatar est arrivé investi dans ce club. 6 ans qu'ils essayent de faire venir une star internationale. Ils ont réussi à avoir des joueurs hyper forts, Zlatan, Thiago Silva, ok. Mais la star, le joueur au top, capable de pouvoir aller chercher un ballon d'or, ils viennent de l'avoir. On en a suffisamment parlé. Ils ont mis 220 millions pour y arriver. Ils ont mis 2 ans à essayer de convaincre l'entourage, le joueur. Ils y arrivent. Il a besoin de quoi, Neymar ? Il était déjà au Barça ? Il était déjà dans un, voire le meilleur club du monde. Il a un nouveau projet, il a besoin d'avoir ce qu'il n'avait pas avant, c'est-à-dire avoir le leadership. Donc, qui tire les pénaltys, moi, ça me paraît normal. Après, effectivement, il faut faire attention humainement à accompagner les choses et à offrir peut-être autre chose à Cavani. Bon, sur le terrain, de toute façon, il sera retranché.
Il serait DRH du Paris Saint-Germain.
Non, mais je comprends.
Neymar, tu ne peux pas le remplacer. Cavani, tu peux le remplacer.
Mais moi, ce que je trouve hallucinant et qui révèle la nouvelle dimension qui a été prise par le club avec Neymar, c'est que c'est devenu un feuilleton improbable sur une bisbille. qui existe dans tous les clubs. Neymar, il a fait un match pourri.
Non, ça n'existe pas dans tous les clubs, Florian.
Ça tient pas, je vais vous dire pourquoi.
Ça a déjà existé, mais ça n'existe pas dans tous les clubs.
Dans tous les clubs, il y a des joueurs qui chicorent pour aller tirer un coup franc ou un pénalty.
Florian, c'est pas la même chose.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que Neymar, il a fait un match pourri contre Lyon. Il voulait marquer un but.
Il voulait sa stat.
Il avait l'occasion d'en marquer un. Il pensait que Cavani avait marqué alors que c'était un CSC. Alors que le speaker avait annoncé Cavani. Il a dit à Cavani, t'as marqué, laisse-moi un but. Voilà. Et on en fait des tartines.
Mais on en fait des tartines. Florian, ils se sont engueulés comme du poisson pourri dans le vestiaire après le match, et après Neymar a dû s'excuser. Heureusement qu'on en parle encore.
On va marquer une page de pub parce qu'on veut finir à Montpellier. Il reste 2 minutes plus le temps additionnel, mais évidemment Florian Gazan, c'est pas la même chose lorsque vous êtes avant-centre à l'AS Stade Caillou le dimanche et que vous vous disputez pour tirer un pénalty, que lorsque vous êtes un club star et que vous savez que tous vos gestes seront épiés. Ça se prépare. À tout de suite.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Praud.
18h49, c'est passionnant ce qui se passe à Montpellier actuellement avec Dimitri Moulins, puisque le Paris Saint-Germain va concéder son premier match nul de la saison. 0-0, nous sommes dans le temps additionnel, Dimitri.
Effectivement, 2 minutes de jeu dans les 4 minutes de temps additionnel et toujours 0 partout entre Montpellier et Paris, même si c'est Paris qui presse le plus devant le but adverse et devant le but, en l'occurrence, de Benjamin Lecomte. Eh bien, on ne voit pas quand même pour le moment comment ça pourrait finir par passer. On va voir, il reste 2 minutes, 0-0 entre Montpellier et Paris, peut-être sur cette action là emmenée sur la droite par les Parisiens, mais on va repasser derrière, revenir sur Marco Verratti. Verratti dans la moitié de terrain Montpellier-Rennes pour Rabiot dans l'axe, il a un peu d'espace, il peut glisser en profondeur, il va essayer de trouver Lucas, il revient sur Rabiot, le centre dans la surface de réparation, ça va passer au-dessus de Cavani et ça ne va pas lui revenir. D'ailleurs il y aura une faute dans la surface de réparation d'un Parisien et donc un coup franc pour Montpellier. Il reste 1 minute et 40 secondes dans le temps additionnel.
Ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il n'y a quasiment aucune occasion de but pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai aussi que c'est le début de saison. On voit que le Bayern est en difficulté. On voit que le Real Madrid a perdu à domicile.
Bon, les grandes... gagné aujourd'hui.
Oui,
à l'Aves.
Exactement, mais les grandes équipes ont peut-être un temps de rodage, hein, ce qu'on dit habituellement pour expliquer ce type de contre-performance. Non pas tant dans le résultat, d'ailleurs, je trouve que dans le jeu, moi ce qui me frappe surtout dans le PSG ce soir, c'est la faiblesse du jeu. Et comme cette faiblesse du jeu a été remarquée depuis le début de saison, bah, t'attends tout simplement plus, Philippe Sanfourche.
Oui, non, mais c'est très clair et j'aime beaucoup l'exemple qui a été pris sur l'Olympique Lyonnais dans les années 2000, effectivement. Sur ce type de match, on est à 4 jours d'un PSG-Bayern, on ne va pas s'attendre à ce qu'il déroule et qu'il fasse demi-temps pleine.
Voilà,
mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins un bon quart d'heure, 20 minutes, pendant lesquels tout le monde élève son niveau de jeu pour faire la différence et après, c'est plié. Le problème, c'est que cette équipe, elle a encore du mal à sortir de sa zone de confort et à jouer. Là, par exemple, la pelouse est pourrie ce soir. Bon, c'est pas une excuse en soi, mais le PSG doit pouvoir développer un autre type de jeu pour passer outre. Or, on s'aperçoit qu'il suffit que la pelouse soit pourrie et hop, ça y est, le jeu du Paris Saint-Germain se délite.
S'il n'a pas de bons résultats, notamment en Ligue des Champions, je ne sais pas s'il va passer le cut.
C'est déjà un miracle qu'ils soient encore là.
Oui, je suis d'accord.
Après la saison passée, c'est un
miracle. Vous jouez au loto, le vrai loto, lui, il a gagné au loto. C'est-à-dire qu'il a fait une saison abominable et sous prétexte que Laurent Blanc avait été licencié un an auparavant, il a eu une deuxième chance.
Il a raison.
Mais bien sûr que oui.
Non, quand il dit abominable,
mais bien sûr que oui, vous êtes le Paris Saint-Germain. Vous êtes le Paris Saint-Germain, vous avez un budget de 450 millions d'euros l'an passé, heureusement encore.
850, dit Jean-Michel Aulas.
Oui, non, mais bon, l'année dernière, 450, heureusement encore.
Dimitri Moulin. C'est terminé ici au stade de la Mosson sur ce score de 0-0 entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Paris tenu en échec par une équipe montpelliéraine qui a fait le job.
Eh bien, on pense à Louis Nicolin, tiens, ce soir. Et il serait content que son équipe...
Et vous savez que Neymar y a pensé aussi, et le président du PSG aussi, puisque le maillot de Neymar a été amené à Laurent Nicolin lors du déjeuner classique de ce midi pour intégrer le musée Louis Nicolin au Mas Saint-Gabriel.
Eh bien, je pense que Louis Nicolin, il serait heureux ce soir d'avoir vu son équipe de Montpellier avec les valeurs de la paillade qui lui étaient chères, c'est-à-dire le courage, l'intensité. On s'est battu avec peut-être moins de moyens et forcément moins de moyens que le Paris Saint-Germain.
Oui,
on
a vu nettement
moins. On a vu du couvert.
Il a même tweeté dans un très bon français, Neymar, sur le maillot offert à Louis Nicolin.
Mais vous êtes cynique.
Il y a toute l'histoire du sport français dans vos trois phrases.
Mais pas du tout. C'est bien. bien que Montpellier, ça fait partie, c'est voilà, ça va faire plaisir aux uns aux autres, que le petit rivalise avec le grand.
Bon, c'est formidable. Mais juste sur l'histoire du maillot, on peut juste dire que c'est très très bien que le Paris Saint-Germain ait pensé à offrir un maillot. Mais ce n'est pas Neymar qui a pensé à offrir un maillot, évidemment.
Neymar, il ne connaissait sans doute pas Louis Nicolas. Voilà,
donc le Paris Saint-Germain a offert un maillot de Neymar.
On peut prendre un petit peu la défense d'Emery ou c'est pas possible?
Non, on dit d'abord au revoir à Dimitri Payet.
Regardez, même Philippe Sanfourche a fini par céder.
On dit au revoir à Dimitri Moulin. On le félicite parce que d'aller le stade de la Mosson était plein ce soir. Oui. Donc je pense que pour quitter le stade de la Mosson, connaissant Montpellier, vous êtes chez vous vers 2-3 heures du matin.
Même demain, prenez un hôtel. Hein.
Merci, Dimitri.
Il n'y a pas d'hôtel à côté, malheureusement. Mais...
Voilà, merci Dimitri.
On va partir surtout faire toutes les réactions.
Oui, tant que les joueurs parisiens se présentent aux
exactement, et puis nous vous écouterons dans le multiplex, puisque comme vous le savez, Christian Olivier assure le multiplex. Depuis 3 semaines, il est revenu et ce sera jusqu'à 23 heures. Merci Dimitri, 0-0 merci, à la Mosson. Merci beaucoup.
On refait le match sur RTL.
La parole est à la défense de Unai Emery.
C'est de plus en plus difficile.
C'est maître François Pinet, avocat du Basque depuis un an et demi, mais c'est une cause perdue.
Non, c'est pas une cause perdue, justement. J'entends les mots abominables de Sébastien.
La saison passée. Je n'ai aucunement mémoire courte. Je le disais l'an passé, je le dirai toujours cette année.
Les chiffres, c'est un deuxième.
Aucun problème. Vous êtes au Paris Saint-Germain, 450 millions de budget.
Vous êtes François Pinet parle, en fait.
Vous êtes humilié en Ligue des Champions. Vous êtes humilié en Ligue des Champions mondialement et vous êtes deuxième du championnat.
Non, mais attendez, deuxième, avec des chiffres incroyables.
Laissez François.
Rappelez quand même, effectivement, il y a une erreur de recrutement. Là, on est tous d'accord pour le dire. Unai Emery est certainement responsable en partie du recrutement raté. Là, on est d'accord.
Mais quel est le recrutement raté?
Bah, le recrutement raté de la saison dernière.
Ah, pardon, Fico, la saison dernière.
Ben Arfa, Ressé, enfin, tout ce qu'on ne voit plus. Voilà.
Il n'est pas resté longtemps.
Mais en revanche, je veux qu'on laisse du temps à Unai Emery. Je pense qu'il en a besoin.
Jusqu'en quoi? 2027, 2028
déjà 15 mois.
Et que je n'ai pas vu une équipe du Paris Saint-Germain sous l'air Laurent Blanc aussi forte que celle que j'ai vue lors du match aller PSG-Barça. Je vais le répéter,
ça, vous êtes
mais c'était.
Gonflé.
Non, alors ça, c'est vrai. Là, je suis entièrement d'accord avec François.
Et jouait quand même bien.
Non, non.
Les matchs européens du PSG, je pense que ce PSG-Barça au Parc. Et je le dis clairement,
ce qu'on a eu mieux,
est le plus fourche. Beau voilà. Match de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe.
Il y avait un coach sur le banc, il s'appelait Unai Emery.
Vous pouvez me sortir PSG Real, tout ce que vous voulez.
Ah bah oui, parce qu'elle ne regardait pas comme ça. Vous allez me chercher un PSG Dijon.
C'est le meilleur match du PSG en Coupe d'Europe de son histoire.
La mi-temps.
C'est difficile.
C'est un match parfait.
Je comprends.
Alors, donc il en est capable, Unai Emery. Voilà,
deux ou trois choses sur le Paris Saint-Germain avant qu'on passe la pub et le flash. Qui doit les tirer les pénaltys? Vous avez dit tout à l'heure, c'est Neymar. Vous êtes tous d'accord? Parce que Cavani
en 1, Neymar en 2, et puis après ils sont assez grands.
Même
quand
si
même.
Les stars, les arguments de Sanfourche, Ballon d'Or,
quand
tout
même
ça.
Pour Cavani fait une erreur. Cavani fait peut-être une erreur. Il aurait peut-être dû dire bon bah Neymar, vas-y tire-le ce penalty. Mais lui, il a besoin de stats aussi Cavani pour la confiance.
Mais qui
aussi.
Doit le tirer selon vous?
Eh ben, pour moi, c'est Cavani en 1, il les tire très bien, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, pourquoi pas, lors d'un match, si Cavani en a marqué un juste avant, il peut dire bon, bah, le pénalty, c'est pour toi, Neymar.
Enfin, Tarago, je suis assez convaincu par l'argumentaire de M. Sanfourche.
Ben moi, j'ai été très frappé parce qu'on a posé la question aux internautes cette semaine, etc. Et les gens, au fond, considèrent que Cavani n'a pas démérité, que c'est un bon soldat du Paris Saint-Germain, et que Neymar n'a pas arrivé avec, et on n'a pas à lui dérouler le tapis rouge, c'est un peu vos arguments pris à l'inverse, Philippe Sanfourche, que faut qu'il gagne d'une certaine manière ses galons, et que ça se mérite de tirer les pénaltys.
D'ailleurs, je pense qu'il devrait aller faire un tour en CFA. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même qu'il montre avant de jouer. Mais vous plaisantez ou quoi? Les arguments de Sanfourche sont quand même brillants. Excusez-moi, mais tout explique.
Oui, mais vous prenez le risque de perdre Cavani.
Allez, la publicité, on finira avec le Paris Saint-Germain tout à l'heure. Je vous demanderai qui décide dans le PSG, qui est le patron.
Sébastien.
Et PSG Bayern, il faudra quand même qu'on en parle un petit peu. C'est la publicité, c'est Damien Béchiot qui est de retour. Il est de retour de vacances, l'ami Damien. Donc on le salue, il est derrière la vitre. Quentin Vinet pour le flash à 19h et nous revenons pour parler de votre ami Bielsa qui a Unai Emery. Il faut leur donner un billet d'avion pour que tous les deux s'en aillent. Monaco peut-il refaire le coup de l'an passé et Zidane est-il en danger? Un peu de provocation, un peu de taquinerie, c'est la bonne humeur. À tout de suite.
RTL avec Pascal Praud,
on refait le match.
On refait le match.
À À 19h05, je rappelle que le Paris Saint-Germain a concédé son premier match nul ce soir à Montpellier, 0-0. Florian Gazan, François Pinet, Sébastien Tarago, Philippe Sanfourche pour évoquer le Paris Saint-Germain. On ne va pas faire l'heure sur Paris, mais est-ce que vous êtes déçu par Neymar? Est-ce qu'il y a un danger que Neymar ne réussisse pas? Moi, ce qui me frappe beaucoup avec les matchs de Neymar depuis le début du championnat, c'est que parfois, il est complètement absent.
Moi, il m'a déçu cet après-midi, en tout cas. J'ai pas vu du match.
C'est une plaisanterie, en fait.
Non, c'est pas une plaisanterie. Il a marqué 13 buts l'année dernière, je vous assure.
Il a marqué 13 buts, il a joué la moitié des matchs dans des positions qui correspondaient pas.
Vous êtes politiquement correct, même dans le football. Je vous dis, c'est pas Cristiano Ronaldo aujourd'hui, Neymar. C'est tout, je l'ai dit moi le 15 août.
En ce moment, il est plus fort que Cristiano Ronaldo.
Il y a des matchs où vous ne le voyez pas.
Mais vous plaisantez.
Il y a des matchs où il est extraordinaire.
Messi aussi disparaît, certains matchs.
Messi disparaît.
Il a fait un mauvais match contre Lyon, ok,
sur le nombre de but de l'année dernière, ça n'a aucun sens de juger Neymar.
Mais PSG Lyon, je ne l'ai pas vu.
Bah, il a fait un mauvais match, on est d'accord.
Ça arrive,
oui, mais l'autre match.
Les cinq précédents, il a été parfois exceptionnel, voire brillant.
Il a été très bon contre Guingamp.
Ouais.
Il a été très bon, je crois, contre
Toulouse.
Contre Saint-Etienne.
Exceptionnel.
Toulouse, contre Toulouse, les premiers matchs. Ouais. Mais le match bon d'avant, Lyon.
Contre Glasgow, c'est lui qui met le premier but, va se le chercher tout seul.
Il en était à 4 buts, 4 passes décisives.
Ok, je passe, vous avez raison. Ma question est nulle et non avenue.
Non, parce que par rapport aux autres, c'est qu'il va vouloir tout faire dans cette équipe.
Il a fait des gestes qu'on n'avait jamais vus en Ligue 1.
Pas de souci par rapport aux autres.
Pas de souci. Qui est le patron du PSG?
Neymar.
Nasser El
Khelaifi. Non, mais sérieusement, Neymar. Philippe, qui est le patron? C'est Nasser. Mais qui décide dans cette équipe? Les Brésiliens?
Emery,
Neymar.
Oui.
C'est Neymar. Bah, on a donné les clés du camion à Neymar.
La preuve que non. Parce que, par exemple, Neymar, il va y avoir sans doute une rotation sur les pénaltys, qu'il a dû s'excuser.
Oui, le fait qu'il s'excuse fait qu'il n'est pas complètement le patron
Moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de patron dans le vestiaire du Paris Saint-Germain.
Alors là, pour le coup, c'est une interprétation toute personnelle, mais je pense que le fait qu'il s'excuse, c'est parce que la situation avait pris une ampleur un peu démesurée et que, en gros, pour son image globale, mondiale, machin, fallait qu'il montre qu'il fait un petit pas en avant.
Je pense qu'aujourd'hui, le clan des Brésiliens, comme on dit, parce que moi, ça qui me gêne un tout petit peu, quand même, c'est Daniel Alves, qui est un drôle de coco. Hein. Attention, hein, dans le passé, il n'est pas facile à gérer, cet homme-là. Il vient un peu comme le garde du corps de Neymar. Moi, ça me dérange un peu. Et j'espère que ça se passera bien. Mais s'il y avait un patron aujourd'hui, je pense que ce serait quand même Thiago Motta.
Motta et Alves, je pense, c'est une sorte de doublette. Après, Alves, c'est lui aussi qui organise ce fameux dîner. Alors, on va pas gloser là-dessus, mais on se rappelle que Duchesne, ayant fait un dîner similaire, ça avait porté ses fruits. Le fait qu'Alves organise ce dîner veut dire que veut dire qu'il avait un peu la crotte au cul parce qu'il est pas très clair non plus. La crotte au cul.
Ah bon.
Il est pas très clair sur cette histoire
c'est
de dimanche.
C'est une métaphore footballistique.
Non, mais il est pas très clair sur cette histoire de dimanche. Il a pas été très net sur cette affaire de coup franc. Et après, c'est aussi
c'était jeudi soir. Hein.
Dimanche soir contre
non, le dîner, c'était jeudi soir.
Oui, c'était mercredi.
Ah, c'est mercredi de soir. Vous n'étiez pas convié, Pascal.
C'était dans un endroit célèbre de Paris qu'on ne va pas citer parce qu'il ne faut pas faire de pub.
Et il y avait tout le monde. Et notamment
il a perdu son chien, d'ailleurs, Dani Alves, depuis.
Oui, il a lancé un message
sur les réseaux sociaux.
C'est une petite
chienne. Il a son chien mort sur les réseaux sociaux.
Non, il a perdu son chien.
Il a
égaré son chien.
Il cherche son chien.
Une petite chienne qui s'appelle Marie.
J'ai peur.
Et il a dit c'est la personne la plus importante.
J'ai eu peur.
C'est toute ma vie.
Il vient de se marier. Ça doit lui plaisir.
Il a dit, c'est toute ma vie, mon petit chien. Il vient de
en plus,
se marier.
J'ai mis une photo du chien.
C'est ridicule.
Ils vont prendre Bernard pour le promener.
Non, mais ces gens sont dans
c'est
un
quoi,
autre.
Comme chien, c'est un petit.
Je sais pas.
C'est un petit chihuahua.
On dit Dani Alves, Sébastien, disait c'est un rôle de coco, tout ça.
Oui.
Bon, ok, probablement, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. On a identifié clairement la saison passée que ce PSG avait plus de caractère, qu'il s'était effondré à Barcelone aussi parce que dans le vestiaire des
bonne
joueurs
réponse.
Comme Zlatan, comme
bonne
David
réponse.
Luiz n'avaient pas été remplacés. Bon, bah, il en fallait, il y en
réponse.
A.
Il a raison là.
Non, mais moi,
Alves au Paris Saint-Germain, j'ai toujours dit que c'était une
dernière. Vous savez qu'il y avait un joueur qui s'appelait Alves.
Je n'ai pas envie que ça se qu'il se transforme en garde du corps de Neymar.
Ça va un peu vite le fait que les gars prennent l'équipe en main en 3 semaines et que ça prouve qu'il y avait un manque de personnalité.
Question pour Florian Gazan, qui sait tout. Quand je vous écoute aux grosses fêtes, vous savez tout. Il y a un Alves qui a joué au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous vous souvenez de...
João
Alves. Ah, ouais. Et quelle était sa particularité?
Les gants?
Il avait des gants noirs. Il venait d'où? Du Benfica de Lisbonne. Oui. Et qui l'a blessé en début de saison? Vous vous souvenez qui l'avait blessé? C'était Genghini qui l'avait...
Genghini.
Bernard Genghini. C'était la question.
Vous dites Genghini, vous.
Je dis comme je veux.
Bah, certes, mais...
Genghini, si vous voulez.
Moi, je veux dire prod. Hein, c'est
19h10 sur RTL. Une dernière question sur le Paris Saint-Germain. Victoire obligatoire contre le Bayern, c'est le premier test. Philippe Sanfourche.
Vu le début de saison du Bayern, vu les ambitions du Paris Saint-Germain, vu que c'est à domicile, je pense que oui, victoire obligatoire.
Moi, je vous dis grand danger. Je vous le dis là, 19h10. Grand danger sur ce que je vois.
Oh, et c'est vrai, le Bayern est une grande équipe.
Je pense que le Bayern va gagner à Paris. Je pense que on se revoit samedi prochain. Je pense que le Bayern va gagner.
C'est pas exclu, mais enfin, ils sont quand même pas sereins depuis le début de saison.
Vous trouvez que votre équipe là,
ils ont fait 2-2 hier soir.
Sur les matchs importants pour l'instant, ils ont
le gardien remplaçant a fait Sébastien une bourde monumentale. Ouais, hier. Alors peut-être fera-t-il un grand match mercredi, mais il n'y a pas de meilleur.
Ulreich.
François, un mot sur PSG Bayern.
C'est le nom du gardien. Le PSG favori et victoire obligatoire. Là, je rejoins Philippe. Je donne pas de pronostic. Hein, voyez, effectivement, ça va être un choc au sommet, mais pour montrer aussi à toute l'Europe que le PSG est là, il faut absolument gagner.
Et comptablement pour avoir cette première place.
Oui. Page de publicité, nous parlons de Bielsa. Est-il en danger? Autopsie d'un fiasco.
Ah, ça y est.
Bielsa, professore ou impostore? Monaco peut-il refaire le coup de l'an passé? Et puis alors Zidane est-il en danger? Ce qui est une question de fou, mais bon, le foot est fou. Benzema qui prolonge. Benzema est-il l'un des plus grands joueurs du Real Madrid? Ça, c'est une bonne question.
De l'histoire.
Tout de suite.
On refait le match sur RTL.
À 19h13, ils sont autour de la table. Et croyez-moi, durant la pub, les conversations se poursuivent. Bielsa est-il en danger? François Pinet, Sébastien Tarago, Florian Gazan et Philippe Sanfourche. Qui répond à la première question? Autopsie d'un fiasco. Est-ce qu'il va rester encore quelques semaines à Lille?
Tarago. Le projet, il est basé autour de lui au départ. Donc, il a un tout petit peu de crédit. Mais moi, je pense qu'il sera très rapidement en danger si cela continue ainsi. J'ai vu le match avec attention.
Joliment
dit, Amine.
J'ai vu le match avec attention.
Joli coup, Baron.
Hier, et alors, c'était incroyable. Parce que c'est une équipe complètement désorganisée, avec des faiblesses techniques qui dépassent l'entendement. C'était incroyable hier. Oui. Franchement incroyable.
Mais c'est que c'est la moyenne d'âge la plus jeune d'Europe. Oui, les 22 ans et 22,8 ans.
Oui, mais il y a une erreur originelle quand même incroyable et de jugement. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'on pouvait tout changer, 90% de l'effectif, 90% de l'équipe type, et que ça marche. Mais c'est pas possible. Il y a un moment, il faut avoir la lucidité de faire les choses pas à pas, de garder 2-3 anciens qui vont tenir quand même la baraque à un moment et d'intégrer les nouveaux. Regardez l'AS Monaco.
Bah, il les avait, mais il les a dégagés, les amis Olof.
C'est lui qui les a dégagés. Ouais. À l'AS Monaco, les joueurs qui arrivent, aussi bons soient-ils, ils attendent un petit peu avant de jouer.
Non, mais c'est sûr, il y a beaucoup de travail pour Bielsa. François Binet. Problème aussi, c'est de dire qu'on vise un top 5 avec cet effectif. L'effectif n'est pas fait pour être dans le top 5 de la Ligue 1. Clairement, il y a des gros manques, que ce soit en attaque, il n'a toujours pas derrière gauche, effectivement. Moi, je ne veux pas acclamer Bielsa parce que hier, les 4 buts, c'est 4 erreurs individuelles. Alors, je pense qu'effectivement, il n'a pas les joueurs pour mettre en place son projet.
Tu as l'impression comme qu'il faut avoir un bac plus 5 pour comprendre ce qu'il veut faire. Les joueurs ne comprennent pas ce qu'il veut faire.
Le problème, effectivement, de Bielsa, c'est que c'est un théoricien. Et contrairement à Jardim, c'est aux joueurs de s'adapter à la méthode Bielsa, et Bielsa ne s'adaptera pas aux joueurs qui
arrivent. Ça peut pas marcher. Parce qu'on est tous dans le football, et on a tous parlé avec des entraîneurs. Un entraîneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'arrive le 1er juillet, je vois mon groupe pendant un mois, et au bout d'un mois, je lui propose un système qui correspond un peu à la valeur
de ce
groupe,
cas de Guardiola,
et auquel il peut adhérer. Et il y a un pacte qui se fait entre un entraîneur et un vestiaire. L'entraîneur propose un système que les joueurs peuvent faire, parce que si les joueurs ne peuvent pas le faire,
Il est persuadé que ces joueurs-là peuvent adhérer au système avec un peu de temps. Visiblement, moi, j'ai aussi l'impression que l'effectif, il n'est pas au niveau. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de manques individuels dans
cette équipe. Parce que tu ne peux pas faire jouer des gens.
Mais là, il y a un manque de confiance en train de se greffer.
Philippe Sanfourche.
Et on voit des joueurs qui sont en perdition sur le terrain, qui ne veulent plus avoir le ballon.
À qui vous pensez?
Parce qu'il y a un moment quand vous changez toute l'équipe, c'est pas possible.
Mais
vous avez appris à le connaître doucement, gentiment. Bernardo Silva, il était pas titulaire au début, c'est pas vrai. Donc il y a un moment, on ne fait pas n'importe quoi.
Il faudra du temps.
Oui, mais ça c'est de la faute de Bielsa.
Mais le problème, c'est que admettons, il a du temps. Dans ce cas-là, il faut une solidarité au sein d'un club. Mm. Mais cette solidarité n'existe pas, puisque c'est la guerre dans le club. Et quiconque aujourd'hui...
C'est-à-dire ?
Il y a la guerre entre Luis Campos, qui est responsable du recrutement, et l'entraîneur. Et les salariés vont à Lille, la peur au ventre. C'est-à-dire que tous les gens qui aujourd'hui travaillent sur à Lille vous confirment qu'il y a une peur aujourd'hui de Bielsa.
Bielsa fait peur.
C'est-à-dire que les gens sont au garde à vous, ils ont peur.
Mais c'est-à-dire les salariés
ils sont terrorisés.
Mais le mais type de marketing, il est terrorisé par Bielsa.
Oui.
Mais pourquoi?
Mais écoutez-moi.
Parce que Bielsa va dans les bureaux.
Bielsa
fait peur.
Il a demandé, par exemple, au responsable de la vidéo de prendre une semaine de vacances parce que son travail ne lui convenait pas. Voilà, c'est un peu.
Mais il y a une atmosphère, vraiment.
Une méthode.
Non, mais je pense que. Enfin, il a quelque chose. On a tous vu cette semaine la conférence de presse de Bielsa. Il y a quelque chose qui. Il n'est pas en paix avec lui-même, cet homme-là, manifestement.
Il répond aux questions, on ne va pas lui reprocher de répondre aux questions.
Non, mais pour être agressif, pour être en colère, pour être...
Il n'est pas idiot, il se rend bien compte.
Je ne dis pas qu'il est idiot, je dis qu'il n'est pas en paix avec lui-même.
Il se rend bien compte que ça ne prend pas ce qu'il a voulu mettre en place, que ça est en train de se retourner contre lui. On sent bien hier, quand on le voyait sur le terrain, sur le bord, on sent qu'il est lui-même, il commence à être paumé dans ce qu'il est en train d'essayer de faire.
Mais sauf qu'il ne changera jamais. C'est ça que vous... Voilà, il faut comprendre qu'avec Bielsa... Bah oui, mais peut-être, mais il faut comprendre qu'avec Bielsa...
Il va faire quoi, alors ? Parce qu'il a beau dire qu'il ne balancera le ballon,
jamais il ne demandera à son équipe. Moi, j'ai regardé attentivement le match. Il ressort tous les ballons derrière. D'ailleurs, il y a des erreurs individuelles qui provoquent des buts parce que, justement, il cherche à ressortir le ballon proprement de derrière. Le problème, c'est qu'effectivement, par rapport à Marseille, où honnêtement, moi, il m'avait enchanté, Bielsa.
Mais à Marseille, il y avait des cadres.
Il y avait Payet, il y avait Gignac, il y avait Benjamin Mendy qui était appelé à devenir un grand joueur.
Qui est blessé d'ailleurs ce soir. On a appris la blessure de Benjamin Mendy.
Effectivement, il y avait des joueurs. Et là, il ne les a pas. Donc, il essaye de mettre le même système.
Oui, bien sûr.
Et faut bien avouer qu'il n'y avait aucune occasion, il n'y avait pas de vie, il y avait très peu de choses. Alors, ils ont la possession de balle, 63% de possession contre Monaco.
Extraordinaire, c'est que vous avez Marc Ingla, donc le directeur général, qui a comme dit hier que son équipe avait dominé le championnat.
On a dominé le championnat.
Quand on rentre dans ce déni-là, c'est dangereux.
Oui, c'est évidemment dangereux. Ça peut aller plus vite que prévu, Sébastien Tarrago, Bielsa.
Moi, je ne crois pas que dans le football, quiconque puisse résister au résultat catastrophique. Et même Bielsa, même si le projet est basé sur lui, la semaine prochaine, il joue contre Amiens. Hein. S'il y a défaite contre Amiens, ça va devenir grave.
L'enchaînement là devient terrifiant.
Une page de publicité, nous parlons après de Monaco. Monaco peut-il refaire le coup de l'an passé? Monaco qui a gagné 4-0 hier soir à Lille. Et puis un petit mot sur Zidane et sur Benzema quand même. À tout de suite.
RTL. On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Reste une dizaine de minutes avant d'accueillir Christian Olivier et son multiplex jusqu'à 23h. Un mot de Benjamin Mendy, je le disais, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il est sorti blessé, mais on n'en sait pas plus.
On n'en sait pas plus, mais on peut juste rappeler qu'il y a la liste de Didier Deschamps qui sera donnée jeudi prochain. Et que si jamais Benjamin Mendy devait être absent, ce serait un énorme coup dur avant les deux matchs décisifs pour la qualification à la Coupe du Monde de l'équipe de France.
D'autant qu'il y a quelques absences déjà.
Il y a un énorme écart quand même.
Il y a Pogba.
Oui, bien sûr, Pogba.
Pogba, c'est Dembélé, peut-être un avantage. Dembélé.
Mais non, je suis mais arrêtez, quand même. Être cohérent. Non, Pogba, je suis d'accord avec vous.
Pogba, il n'est jamais bon avec l'équipe de France. Oui, il n'est pas jamais bon. Il a fait gagner la France.
J'ai très envie de voir Kanté avec Rabiot plutôt que Pogba.
Moi, je
vous
assure, Pogba, ce ne sera peut-être pas Kanté-Rabiot, ce sera peut-être Kanté-Matuidi.
Le politiquement correct, c'est fou parce qu'il agit même dans le football. Pogba, il a la carte. Donc tout le monde a décrété dans le football que c'était un joueur extraordinaire.
C'est Didier Deschamps qui le met à cette place-là.
Et moi, j'ai le droit de dire que à chaque fois que je le vois,
vous avez tous les droits,
Pascal. C'est tout.
Mais en revanche, ne dites pas que les autres sont politiquement corrects.
Le politiquement correct, c'est quoi? C'est de dire la même chose que
tout le monde. Non, on entend des critiques.
Ne soyez pas monolithique, Pascal. Parce qu'il est nul par moment et très bon par d'autres.
C'est pour ça qu'il est énervant.
Vous êtes nul de la même chose que beaucoup de gens aussi.
C'est la première fois que j'entends cette phrase. Et 19h22, Monaco peut-il refaire le coup de l'an passé?
Le pro de l'info, punaise.
Monaco peut-il refaire le coup de l'an passé? Est-ce que c'est possible?
Ils nous le font un peu tous les ans, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils perdent 3-4 joueurs majeurs et on se dit, bon voilà, ils ne vont pas s'en remettre. Et puis, manifestement, ça fonctionne. Alors, sur ce qu'on voit depuis, parce que là, hier, bon, on a beaucoup parlé de Bielsa, c'est surtout Lille qui s'est battu seul presque. Donc, j'ai pas encore vu un match référent de Monaco. La Ligue des Champions, bon, contre Leipzig, c'était pas formidable. Je veux dire, on sent pas poindre la qualité qu'il y avait la saison passée. Mais ils peuvent quand même embêter peut-être le PSG plus longtemps que ce qu'on pouvait le penser en championnat.
Mais c'est pareil que pour Paris. On peut pas les juger maintenant. Il y a tellement de joueurs qui sont arrivés, de nouveaux joueurs, des joueurs à intégrer. C'est difficile de dire vraiment ce que va valoir cette équipe de Monaco, comme celle d'ailleurs de Paris. Il faut laisser encore un petit peu de temps. C'est vrai que ça joue moins bien que l'année dernière, mais moi j'ai l'impression quand même qu'ils ont encore fait des bonnes pioches et qu'ils vont embêter pas parce qu'ils sont en pleine confiance.
Je crois quand même que c'est un tout petit peu moins fort. Poste d'arrière gauche, c'est moins fort. En milieu défensif, même si Thielen Mans, je pense que c'est très bon. Il manquera quand même, je crois, à ce poste un deuxième
joueur. Faut que vous redisiez le nom que vous avez
dit. Thielmans.
Voilà, Thielmans, parce que je suis pas sûr que le joueur belge connaisse encore ce joueur qui arrive effectivement en Belgique et qui a remplacé
Bakayoko.
Bakayoko.
Mais pour l'instant, il n'est pas titulaire.
C'est Moutinho qui joue.
Et si vous voulez, ça manque d'un profil un petit peu plus impact.
Mais il y a Falcao qui est efficace.
Oui, bien sûr, mais Falcao, il a la fin des actions. C'est pas un joueur comme Neymar, cher à Pascal Pro, qui va vous faire la différence.
Il est surtout cher pour le Paris Saint-Germain.
Ronny Lopez, c'est un peu Lucas.
Jovetic a fait un bon match hier, mais c'est pas le même profil qu'Mbappé.
Baldé, ça peut être très intéressant.
Il y a Baldé qui est blessé actuellement. L'intégration des recrues, effectivement, se fait petit à petit. Mais pareil pour Bernardo Silva, il n'a pas vraiment été remplacé, même si Guézal et Ronny Lopez sont...
Ronny Lopez, c'est un peu Lucas, quoi.
Voilà,
c'est
mais ça,
la tête dans le guidon, pas une grande intelligence de jeu.
C'est un avantage, si vous le comparez à Lucas.
Bah, il a un peu des qualités d'explosivité, de dribble qui sont un peu similaires.
Lucas, mais... tu ouvres la porte du Parc des Princes, il court encore avec le ballon.
Et Ronny Lopez, c'est un peu pareil.
19h24 sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Zidane.
On parle pas de Falcao alors. Non, parce que la question c'était meilleur que Cavani.
Falcao, vous trouvez qu'il est meilleur?
Il
est meilleur
largement.
Oui, il est meilleur que Cavani.
Techniquement, c'est au-dessus. Et on a oublié quel joueur était Falcao après son passage en Angleterre et sa blessure, qu'il a un peu freiné. Mais c'est un joueur formidable. Quand il était à l'Atlético Madrid, c'était quand même le haut niveau. Et par rapport à Cavani, là, Cavani a encore raté une occasion énorme en ratant le ballon. Falcao l'aurait pas raté celle-ci.
C'est difficile, je trouve vraiment que c'est deux grands
joueurs.
Et un garçon comme Cavani, dans certaines il est capable de faire des choses Cavani que Falcao n'est pas capable de faire, et Falcao, à l'inverse, est capable de faire des choses que Cavani n'est pas capable de faire. Mais Falcao ne peut pas prendre la profondeur comme Cavani va la prendre, par exemple. Donc, selon le jeu de l'entraîneur, les deux joueurs peuvent être intéressants.
De la tête, Cavani est très 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 fort.
Falcao, c'est un des meilleurs joueurs de tête aussi. Et dans le jeu, surtout, je trouve que Falcao apporte beaucoup plus que Cavani.
Dans le jeu, après, ce qui est certain,
je suis pas d'accord avec vous là.
Ah, si.
Parce que dans le jeu, il est très présent par les courses, Cavani.
Moi, maintenant, j'ai l'impression.
Par les courses, par les appels, par le travail qu'il peut faire défensivement.
Falcao aussi.
Mais dans le jeu,
Mbappé, ça se régalait. Je suis pas sûr que Mbappé va se régaler autant
avec Cavani. Dans le jeu, Cavani, il est plus.
Je pense que Falcao sent mieux le jeu que Cavani.
Mais c'est des joueurs très différents, en fait, au final. Ils ont pas du tout les mêmes qualités. Au final, ils sont deux buteurs complètement différents. Donc c'est difficile de savoir qui est meilleur que l'autre. Après, puis...
Il reste 4 minutes. Parlons de Zidane. Le foot est fou. Il reste sur 2 Ligues des Champions. Il reste sur une victoire en Liga, sur 2 victoires en Liga même. Et je ne peux pas dire qu'il
est une seule.
Ouais. Je ne veux pas dire qu'il est discuté. Mais je vois poindre quand même tout ça parce que...
Déjà en Espagne, il est
critiqué. C'est le Real.
Voilà, le Real Madrid a mal commencé son championnat. Bon.
Bah, ils ont perdu contre le Betis la semaine dernière.
Ils ont perdu à domicile contre le Betis.
Bon. Mais non, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà loin du...
Ils sont à 7 points du Barça.
C'est ça le problème.
Oui, mais enfin, c'est complètement fou.
Zidane, il reste sur 2 Ligues des Champions.
Pascal, c'est le Real. Je vous rappelle que Ancelotti, après avoir décroché cette fabuleuse décimale, l'année suivante, fait une saison blanche. Au revoir. C'est le Real Madrid, c'est comme ça.
Oui, bah oui, c'est entendu. Mais bon, est-ce qu'il est vraiment en danger d'ailleurs? Ou est-ce qu'on n'en fait pas trop?
À partir du moment où vous avez 7 points de retard sur le Barça, ça veut dire que, sauf saison exceptionnelle derrière et accident du Barça, on peut presque dire que la Liga,
Philippe,
il avait repris
11 points, je crois.
Ils peuvent reprendre 6 points dans les confrontations directes contre le Barça.
Oui, mais il en manquera.
Parce qu'ils ont gagné quand même. Ils ont dominé largement le Barça en Super Coupe.
Oui, mais là, ils ont fait un double break.
Oui, enfin, l'an passé, ils ont pris aussi des.
Le premier match aura lieu entre les deux équipes le 22 ou 23 décembre.
Benzema a re-signé cette semaine. Il a prolongé son contrat au Real Madrid. Il est arrivé maintenant depuis
2009
et il sera resté quasiment plus de 10 ans s'il va au bout de son contrat. Hein. Il est dans des statistiques qui le placent parmi les meilleurs joueurs du Real Madrid. Il a 2 Ligues des Champions, il a un nombre de buts extrêmement important en Ligue des Champions comme en Liga. Est-ce que c'est l'un des plus grands joueurs du Real Madrid? Et elle est provocante un peu cette question, quand on connaît évidemment les difficultés de Benzema en France.
Non, surtout quand on connaît les joueurs qui sont passés par le Real Madrid. Si je vous cite Di Stefano, Copa, plus récemment Ronaldo.
Ronaldo, le vrai.
Le Brésilien, Cristiano, actuellement. J'en oublie certainement.
Zidane, Raoul.
Raoul.
Il a deux Ligues des Champions.
Non, mais, oui, mais en finale, c'est.
Oui, mais Marcelo aussi.
De Cristiano Ronaldo.
Oui. Et Marcelo aussi.
Et il aura passé plus de temps que les gens que vous avez
cités. D'un point de vue factuel, en termes de stats, par exemple, il est actuellement au 8e rang. Des buteurs de l'histoire du Real. Ouais. Et il est au même niveau que Gento. Il peut passer devant, 7e meilleur buteur de l'histoire du Real.
Donc c'est pas rien. Il va être dans les 5 premiers.
C'est surtout que je pense qu'au final, ce qu'on retiendra, c'est qu'il aura été le lieutenant.
Oui.
La composante numéro 1 du succès de Cristiano Ronaldo, qui lui peut prétendre au statut de meilleur joueur ou un des deux ou trois meilleurs joueurs de l'histoire du Real.
Il y a un vrai paradoxe. Et sans Cristiano Ronaldo, peut-être qu'il aurait été plus impactant, mais est-ce qu'il aurait joué aussi bien sans Cristiano Ronaldo?
Ça, c'est une question
auxquelles
on ne peut pas répondre.
Il y a un vrai paradoxe.
Mais est-ce que c'est l'un des plus grands joueurs du Real Madrid?
Regardez,
c'est ça ma
Zidane,
question.
Par exemple, on se souvient de cette volée en finale qui fait gagner la Ligue des Champions au Real Madrid. Benzema n'a pas fait gagner sur un match en finale le Real Madrid.
Non, mais il y a son exploit contre l'Atlético.
Il y avait Sergio Ramos. Il y avait des choses comme ça. Il y avait des demi-finales, mais en finale, il lui manque le but.
On dirait
le but. Tout le monde se souvient dans l'histoire.
De toute façon, son aventure n'est pas terminée au Real Madrid. Benzema qui a prolongé cette semaine et qui a redit, je ne sais pas si c'était mercredi ou jeudi, combien il était attaché à l'équipe de France, combien il espérait revenir en équipe de France. Et c'est important.
Mais c'est pas à nous qu'il faut qu'il le dise, à Didier Deschamps.
C'est un ping-pong.
Il le dit, c'est un ping-pong médiatique qu'il entretient avec.
Je vais faire un transfert d'appel.
Avec Didier Deschamps. Il est 19h29 et 37 secondes. Et
patron,
Christian Olivier, El Patron. Si on se demande au Paris Saint-Germain s'il y a un patron.
Non, pas trop, Pascal. Non,
si on se demande au Paris Saint-Germain ou dans le vestiaire s'il y a un patron, eh bien, à RTL au sport, on ne se le demande pas. Car le patron, il est là.
Mais bien sûr.
Parfois, j'ai du mal avec mon schéma tactique aussi. Hein.
Ah bon?
Ah, bah oui, ça arrive.
Bon. Mais vous êtes plutôt 4-4-2 ou vous mettez le bus derrière?
Le WM.
Ah oui, ça ne m'étonne pas de vous.
Vous avez joué au WM? Enfin, quand on était jeune, on jouait en 3-2-5 avec un inter gauche et un inter droit.
Le WM, c'est 66. Donc moi, j'ai joué.
Quand vous jouiez en pupille dans les années 70.
Le WM était un peu passé. On jouait déjà en 4-3-3.
Pascal est plus sapin de Noël.
Voilà. Bon.
Comment allez-vous?
Remarquablement, et vous?
Parfaitement bien.
Merci. Qu'est-ce que vous devenez?
Depuis samedi dernier.
Ça vous dérange, on va y aller, nous. Hein.
Et vous n'avez pas de questions? Moi, j'adore quand vous venez avec nos petites questions. Vous avez les mains dans les poches. D'habitude, vous venez toujours avec les questions, une remise à niveau.
Non, mais j'ai noté deux, trois choses.
Notez-les, dites-nous.
Je doute qu'elles soient très intéressantes.
Mais ça, c'est pas vrai. Là, vous faites votre... Mijorer.
Non, mais vous, avec le Paris Saint-Germain, vous êtes sévère. On est à 4 jours d'un match bien plus important qu'un match de championnat.
Ah, on est sévère avec l'argent qu'il y a sur le terrain, avec ce jeu de.
Non, mais. Tout l'argent.
Avec ce qu'on a vu ce soir, avec le jeu du PSG, vous trouvez qu'on est sévère?
J'ai pas pu aligner deux mots pour essayer de dire ce que je pensais.
C'est pour dire des trucs comme ça.
Mais je vous ai trouvé sévère. Non, mais bien sûr que le PSG a plutôt moyennement joué face à une équipe de Montpellier qui
courageux.
Correspond. Oui, courageux, on va pas dire ça comme ça. Mais enfin, on voyait bien les joueurs sauter un peu à la corde, les joueurs du PSG n'allant pas dans l'impact. Il y a un match de Ligue des Champions à venir. C'est un grand classique à 4 jours d'un match de Ligue des Champions, tout simplement.
Et le Bayern, cette association à but non lucratif, a fait 2-2 hier soir.
Voilà. C'est vrai que c'est jamais qu'un nul à l'extérieur qui ne remet pas en cause la place de leader.
Ce n'est pas un match, c'est un ensemble de choses qui, au Paris Saint-Germain, pose problème lorsque vous voyez le cirque médiatique dimanche soir de cette affaire de pénalty. Vous dites ce club n'est pas très bien géré. Vous le dites comme ça.
Moins à 4 jours de ce match important en Ligue des Champions, la thèse du relativisme. Pour le pénalty, c'est autre chose. D'ailleurs,
il y avait pénalty ou pas, selon vous?
Ah non, selon moi, il n'y avait absolument pas pénalty. De toute façon, de toute façon, j'ai été le premier. Je crois que j'ai été le premier à vous dire que les ralentis radio ne servaient strictement à rien, donc la vidéo ne servait à rien.
Les ralentis radio?
Les ralentis radio, Christian, en fait. Les télé également. Les ralentis télé, si
les ralentis radio, c'est
Christian, juste une chose, on peut quand même constater que le Paris Saint-Germain joue mal sans pour autant être dans le catastrophisme par rapport à, ne serait-ce qu'à mercredi prochain. C'est deux choses différentes. Et je crois que tout à l'heure, on a été dans l'analyse d'une situation depuis le début de saison. Moi, par exemple, je pense qu'ils seront champions. Et sur la Ligue des Champions, je ne sais pas ce qui se passera. Mais moi, je pense que l'entraîneur n'est pas au niveau. Je le pense depuis un an et demi. Je ne vais pas dire le contraire maintenant. Il se trouve qu'il a quelques bons joueurs. Il y a des chances qu'il gagne des titres.
Je ne sais pas si l'entraîneur est au niveau ou pas au niveau. Je ne sais pas s'il faut un entraîneur d'ailleurs à ce niveau-là finalement. Est-ce que les joueurs ne sont pas leurs propres.
Mais comment vous pouvez dire ça, Christian? Franchement, comment vous pouvez, après 30 ans de football,
football, dire qu'il ne faut pas d'entraîneur dans une équipe.
Et je fais comme vous, je caricature un peu.
Mais ce n'est pas caricaturer, c'est la personne la plus importante d'un club, l'entraîneur. Enfin,
ah bah on voit à Lille.
Autrement, vous avez 11 solistes qui font n'importe quoi.
De toute façon, je vous
autrement,
annonce
ils ne se mettent pas d'accord pour les pénalties.
Je vous annonce quelque chose, et je serai le premier à le dire, que l'histoire du turnover pour les pénalties créera une autre polémique, un autre problème.
C'est-à-dire ?
Mais parce que c'est fonction de l'équipe qu'il y a en face, c'est fonction de l'état de forme du joueur qui voudrait tirer le pénalty, qui ne le tirera peut-être pas parce qu'à ce moment-là, on va dire, bon, tu te mets de côté. C'est fonction de l'enjeu. Vous voyez Neymar et Cavani se disputer
parce que
un pénalty.
Tu tires pas un pénalty à la 5e comme à la 80e
Neymar et Cavani se disputer un pénalty, tirer un pénalty contre Chambly en Coupe de France. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est fonction des équipes, c'est fonction de l'enjeu.
Le problème se posera pas parce qu'ils joueront pas.
Ils seront pas assemblés les deux. Ça sera Ben Arfa.
Christian Olivier, comme vous disiez, j'avais rien à dire. Et vous l'avez bien dit. Merci.
Mais précisez, nous sommes ensemble jusqu'à 23h.
19h33. L'ami Christian est là. C'est un ami. On remercie toute la petite troupe ce soir. Vous étiez parfaits, messieurs. On vous relâche dans la nature.
Parce que l'entraîneur était bon.
Comment ?
Parce que l'entraîneur était bon.
Mais c'est dans le football, c'est l'entraîneur, la personne la plus importante.
Ça dépend avec quelle équipe, avec quel star, avec quel joueur.
Non,
ça dépend.
Non. Non. Bon ben,
prenez l'exemple de la finale de la Coupe du Monde 2006 avec ou sans Domenech. Alors, on nous a seriné les oreilles que les joueurs s'étaient pris en main et que c'était Zidane qui menait toute cette troupe. Et là, vous êtes en train de nous dire non, il y avait Raymond Domenech.
La sélection et les clubs, ce sont deux choses différentes. Sélectionneur et entraîneur.
Oui, on parle des entraîneurs, soyez rigoureux. On ne parle pas des sélectionneurs. Quel mauvais Olivier. Les mots ont un sens. À tout de suite.